Circus, Cannabis Circus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Cannabis. Plus rebelle des radios, et comme tous les lundis soirs de 21h à 22h, eh ben, c'est l'émission du Cirque, donc du collectif d'information de recherche cannabique, que vous pouvez toujours joindre au téléphone au 06 11 53 10 07. Et puis sinon, eh ben, venez nous voir un jour à la radio aussi. Vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Ce soir, nous allons vous faire la revue de presse, comme tous les lundis soirs. Donc, on va vous parler du chanvre, du cannabis, de ce qui se passe un petit peu partout. Un petit peu, ça bouge un petit peu vers Lille, où il y a une adjointe à Aubry, un soutien d'Emmanuel de
Benoît.
De Benoît Hamon, le seul d'ailleurs qui revendique la légalisation. Quoi, non, pas le seul, il y a aussi le vert. ELV Les Verts avec, j'arrive pas à retrouver son nom,
Yannick Jadot.
Voilà, tout à fait, merci. Donc ces deux-là sont pour la réelle légalisation, les autres sont que pour la dépénalisation, malheureusement.
Bah, les autres, c'est-à-dire enfin, Macron, oui, mais...
Macron ou Mélenchon.
Mais Mélenchon, il est pour la légalisation.
Il a passé la légalisation.
Ah bah oui, il dit que, vu qu'il est contre le cannabis... Et du coup, c'est son raisonnement, hein. Il est contre le cannabis, donc pour mieux l'attaquer, il faut légaliser.
D'accord, parce qu'il n'y a pas longtemps, il parlait que de dépénalisation, donc il a évolué.
Il semble bien, oui.
Bon, on verra.
Ah, je peux me tromper, hein, parce que c'est vrai que...
Bon, après on essaiera passer deux, trois articles assez rapides. Un avec Anne Coppel et Jacqueline Roussillon sur les impasses de la répression.
Rouillon. Oui, pas Roussillon. C'est pas grave, continue.
Voilà, après un autre avec Emmanuel Auriol, qui est lui dans Paris
elle,
Match.
Qui est elle, c'est une
elle,
dame.
Elle, Emmanuel, c'est elle.
C'est d'accord. Une dame, on a déjà parlé.
Donc, interdire le cannabis, freine-t-il son usage? Un grand article là-dessus. Je sais pas si on parlera de Saint-Similia Pharma. Si, et cannabis.
Sensicides, pas de Saint-Similia.
Sensicides, oui.
C'est un groupe Saint-Similia.
Et oui, c'est celui qu'on va écouter juste après, d'où l'erreur. Et
t'en as trop respiré, la Saint-Similia, c'est pas
vrai. Et les étranges bagages du commissaire, un truc...
Du commissaire.
Du commissaire, Ripou, point d'interrogation, voilà, c'est...
Sujet de François Thierry.
Voilà un petit peu pour tout le sommaire. Et puis, pour commencer, une petite brève à Rennes.
oui, c'est West France qui nous parle de ça. West France du 24 janvier dernier. Donc, c'est quatre jeunes gens de 35, 27, 26 et 25 ans qui veulent se mettre à la culture en intérieur. Bon.
Et sans payer.
Oui, enfin, sans payer, c'est-à-dire, ils sont allés au magasin pour se fournir en matériel, mais ils ont cambriolé le magasin, en fait. Voilà.
En dehors des heures d'ouverture, quoi.
En dehors des heures d'ouverture, oui. Vers 4 heures du matin, en l'occurrence. Donc les policiers, ils les ont chopés en fait. Hein.
Ouais, oui, il y a eu une alarme, il y a eu des appels, les flics sont arrivés, ils se sont enfuis, les flics les ont coursés, ils les ont rattrapés.
Et apparemment des individus déjà connus des services de police. Du coup, voilà un petit conseil quand même. Si vous êtes effectivement connu des services de police, faites encore plus attention qu'avant. Je sais pas comment on peut dire ça. J'ai envie de le dire. Hein. Peut-être c'est pas très bien de dire ça quand on est un malfrat, mais bon, ça surprend quand même hein, l'amateurisme de certaines personnes. Voilà, enfin bon, en tout cas, ils se sont fait attraper. Et donc, ça sera mercredi que ça va se passer, mercredi en comparution immédiate. Ah non, c'était mercredi dernier, là, celui qui vient de passer, là. C'était mercredi, donc... On verra ça plus tard, je pense qu'on en entendra parler de cette histoire. Enfin, en tout cas, voilà, si vous voulez vous équiper, c'est vrai que s'équiper pour faire un placard chez soi, c'est pas donné. Mais si vous êtes bricoleur, ça peut vraiment coûter rien du tout, quoi.
Donc, c'est pas la peine.
Hein ?
Ou pas grand chose.
Ou pas grand chose. Voilà, en tout cas, ça évite d'aller faire un cambriolage et de se retrouver dans de sales draps après. Musique !
Allez, musique.
À tout de suite.
Ça marche, mais donc on va reprendre un tout petit peu un autre truc.
Ah bon, on a des nouvelles platines à Canu et visiblement nous on n'est pas très doués pour les faire marcher. Bref.
Ah, je crois que c'est surtout le CD qui est un petit peu ancien. On va vérifier ça. Mais voilà, voilà.
Bon, du coup, on va passer au premier sujet. Alors, si ça.
Vas-y, vas-y, je t'en prie.
Voilà, donc bon, un petit sujet comme ça. Hein, ça se passe à Lille. Et il se trouve qu'à Lille, au sein de la municipalité, il y a des élus qui voudraient voir changer les choses au niveau de la législation sur le cannabis et les drogues, qui voilà, voudraient que ça aille un peu plus vite. Donc en l'occurrence, c'est Charlotte Brun, qui est présidente du conseil de quartier de Vazem, qui dernièrement donc était interrogée sur le climat d'insécurité qui règne depuis plusieurs années autour de la rue Jules Guedde, à Lille, hein, toujours. Donc développement des trafics, présence intimidante des dealers qui provoque bien sûr une fuite des commerçants et de nombreuses plaintes des habitants. Dans la municipalité, on s'est dit « Ah, on va mettre des caméras de vidéosurveillance qui ont été installées au mois de mars dernier » et ça n'a pas de grand effet d'ailleurs. Donc l'élu du quartier, en l'occurrence Charlotte Brun, a d'autres projets, envisage d'autres stratégies. Et elle est convaincue que il faut légaliser le cannabis. Voilà. Et elle est persuadée qu'une telle mesure changerait le visage de la rue Jules Guedde. Et en tout cas, on ne peut que féliciter le courage de Madame Charlotte Brun qui fait une sortie toute seule hein, là dans sa municipalité. Voilà. Donc après, bon, on apprend aussi dans cet article de 20 minutes que Madame Charlotte Brun est un soutien historique de Benoît Hamon, qui, lui, est en faveur d'une légalisation du cannabis. Ceci dit, ce n'est pas de l'avis de toutes les personnes, tous les élus ou les représentants de la mairie de Lille. En l'occurrence,
certains se sont insurgés.
en tout cas, se sont positionnés. Pour dire, ce n'est pas le point de vue de la mairie, mais c'est un point de vue qui n'engage que Madame Brun, en fait. Hein. Alors, il y a cet article de 20 minutes et il y a un article après de La Voix du Nord, du même jour d'ailleurs, hein, qui là fait plutôt la part belle aux autres élus de la ville. Donc voilà, là c'est monsieur. Que je retrouve son nom, que je le retrouve pas. Pierre de Saint-Ignon, voilà, qui s'exprime en lieu et place de Madame Aubry, qui la semaine dernière était convalescente, paraît-il. Voilà, c'est le premier adjoint, Pierre de Saint-Ignon, qui a donc signé un communiqué la semaine dernière. Je vous cite les propos de Monsieur Saint-Ignon. Donc, suite aux propos parus ce mercredi matin dans La Voix du Nord. La ville de Lille tient à rappeler qu'elle n'a jamais pris position sur la question de la légalisation du cannabis. C'est une question qui doit se poser à l'échelle nationale dans le cadre d'une politique de lutte contre la toxicomanie. Aussi, les propos de Madame Charlotte Brun sur le sujet expriment sa position personnelle et n'engagent qu'elle. Voilà, donc rétablissement.
La mairie dit rien, la mairie de Lille n'a jamais pris position, donc. Martine Aubry, tu en as parlé un peu des pénalisations il y a quelques années, et aujourd'hui elle ne sait pas trop, hein, elle se tâte, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça. En 2011, en décembre 2011, elle avait pris position sur le sujet, elle avait dit, voilà, le grand débat c'est entre dépénalisation et légalisation, elle avait dit, moi je suis pour la dépénalisation, et je pense que tant qu'on n'aura pas pénalisé réellement de manière extrêmement forte ceux qui sont dans les trafics, ceux qui s'enrichissent du cannabis, il est difficile de le légaliser. Bon, on ne comprend pas trop ce qu'elle veut dire hein, là-dedans. Elle exprime un point de vue qui est souvent pas très clair, comme beaucoup de gens qui s'y connaissent pas trop d'ailleurs. Hein. Mais bon, on va pas.
Elle s'est mise à soutenir son petit Benoît, donc peut-être voilà. Qu'ils vont aller un peu plus loin.
Peut-être qu'elle a évolué, en tout cas, sur la question. Elle pense donc que d'après son chef de cabinet qu'il faut ouvrir un débat national, circonstancié et dépassionné avec des professionnels de la santé, des personnes qui connaissent bien les problématiques liées à la toxicomanie, blablabla. Voilà. Voilà.
Bon bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'adjointe s'est déclarée donc une amoniste, hein, quoi, ou quelqu'un qui soutient Hamon, convaincue de la nécessité de légaliser le cannabis pour tuer les réseaux.
Voilà, on ne peut que saluer ce courage quand même. Hein. De plus en plus d'élus, à mon avis, ont envie de dire des choses et ne le disent pas, ou en tout cas, peut-être le diront plus tard.
Bah, peut-être que Benoît Hamon va libérer la parole, qu'enfin on va avoir le débat. Nous allons voir ça en 2017, c'est une année qui s'annonce riche en événements.
Et donc Allez. Maintenant, on peut écouter de la musique, c'est ça?
Ouais,
on va essayer en tout cas. J'espère que la platine va partir,
on va
notre CD.
De faire ça,
Avant qu'on arrête de parler, on va déjà mettre la musique. Et c'est parti, à tout de suite.
C'est bon, c'était bien Sensimilia. Bah, je vous ai mis Sensimilia, pas celui que je voulais vous mettre puisque le CD n'a pas marché. Mais en tout cas, voilà, c'était bien eux. C'était Histoire de Ganja.
Voilà, et on a retrouvé nos CD.
Ah ouais, c'est voilà. Le paradis.
Bonne nouvelle. Bon, bien. Alors, on s'intéresse à cet article du site internet regard.fr.
Oui,
que je trouve très intéressant. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire tout l'article.
Oui, j'ai eu le temps.
Alors c'est vraiment très intéressant, c'est une interview et un dialogue en fait entre alors Jacqueline Rouillon, qui est un membre du Parti communiste puis du Front de gauche depuis 2009, qui a été maire de Saint-Ouen entre 99 et 2014, elle est désormais chargée de mission sur le Grand Paris à Gennevilliers. Et participe également à cette discussion Anne Coppel, qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même vous présenter. Anne Coppel qui est sociologue, qui est militante associative, qui a fondé l'Association française de réduction des risques dans les années 90, auteur avec Olivier Doubre de Drogue, sortir de l'impasse, expérimenter des alternatives à la prohibition, paru en 2012, mais elle a écrit beaucoup d'autres bouquins, je vous en conseille un qui n'est pas évident à trouver mais qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est Le Dragon domestique, qui est paru en 1989, hein, c'est vrai que c'est pas nouveau, avec Christian Bachmann qui est un historien. Voilà, un livre vraiment très, très important, très intéressant, pour comprendre le pourquoi du comment on en est là aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait qu'on a tout interdit, voilà. Et les dégâts en plus que ça a provoqué. Donc là, dans cet article, il s'agit d'une, donc, comme je dis, d'une interview, une conversation avec Jacqueline Rouillon, Anne Coppel et donc quelqu'un du site internet regard.fr que je ne connaissais pas. De quoi qu'elle cause, eh bien, en fait, c'est comment a évolué Saint-Ouen, en fait, depuis toutes ces années. Donc, c'est la première question de regard. Hein. Les médias ont fait de Saint-Ouen un lieu emblématique pour illustrer les problèmes liés au trafic de drogue. Comment avez-vous vu la situation évoluer? C'est très intéressant.
Tout à fait. Alors, on va peut-être pas le lire in extenso parce qu'il fait trois pages. On passerait l'émission là-dessus. On va essayer de vous en faire un petit peu des commentaires. Voilà. Donc, Jacqueline Rouillot explique avant.
Rouillon. Décidément, Rouillon, t'es fâché avec
J'ai du mal avec elle. Hein. Rouillon. Donc, Jacqueline Rouillon explique qu'avant, il y avait des petits commerces un petit peu de ci, de là.
En
bas des cités ou même ailleurs. Bon, en tout cas, c'était.
En bas des bars, voilà, en bas des tours, en bas des immeubles.
Voilà, et puis c'était même très, très épisodique. Les gens faisaient ça l'année et puis l'été, ils partaient en vacances, quoi.
Au niveau du petit business, tu veux dire.
Ouais, du petit business, ouais. C'était très simple. Et puis, petit à petit, il y a la violence qui est arrivée. Alors, ils mettent deux raisons à ça. D'une part, le développement de l'activité et multiplication des points de vente, ça commence à faire de la
concurrence.
Et la deuxième chose, c'est que du coup, il y a eu aussi des grands barons de la drogue qui sont arrivés là-dessus et qui ont essayé de mettre tout ça un petit peu en réseau.
Pas des grands barons, enfin des gars un peu plus...
Un peu plus caïds, quoi, on va dire.
Un peu plus organisés, un peu plus déterminés. Ouais.
Voilà, donc c'est un petit peu ce qui explique pour elle les deux raisons qui fait que la violence est arrivée petit à petit en plusieurs étapes. Hein. C'est pas le cannabis qui amène la violence, il y a tout un phénomène de société, tout un phénomène lié à la prohibition. Voilà. Et Anne Coppel rajoute que les premières fusillades à Saint-Ouen n'ont eu lieu qu'en 2007. Donc ça fait déjà une dizaine d'années, mais bon, par rapport au temps dont on parle de Saint-Ouen comme la cité de vente de Paris, hein, ça fait pas longtemps. Voilà, Rouillon continue sur ses...
Alors, ce que dit Anne Coppel, hein, elle précise voilà, que ça n'a pas toujours été violent, comme tu dis, première fusillade en 2007, et elle dit qu'il y a eu un moment, hein, au moment d'une déclaration de guerre à la drogue. Mmh. Voilà. Avec les usagers comme première cible. Et donc, c'est un tournant. Hein. Elle dit que ce tournant précis, très vite, et j'ai envie de rajouter même fort logiquement, c'est traduit par des morts. Voilà.
Voilà, avec des policiers qui ne savent pas trop comment faire. Puis en plus, la difficulté d'arrêter des jeunes qui sont mineurs. Voilà, donc du coup, on les relâche tout de suite. Quoi. Voilà, vraiment un gros problème sur le terrain. Voilà, ça va pas du tout. Hein. Regard repose une autre question, la séparation de la question de la consommation en la dépénalisant et du trafic pourrait-elle aider à déterminer le terrain ou à lever une partie de les tensions entre police et population? Alors Anne Coppel répond oui. Plus on augmente la violence du dispositif répressif, plus les trafiquants s'organisent. C'est toujours ce qu'on a vu, et au contraire, plus il y a de la répression, plus il y a du trafic. Puisque ça vaut de plus en plus cher, donc il y a de plus en plus à y gagner.
Oui, et puis plus on est attaqué, mieux il vaut, plus après il faut s'organiser pour continuer à faire de business. Donc plus on s'organise, plus on est nombreux aussi pour s'organiser et pour gérer tout ça.
Voilà, et donc Jacqueline Rouillon rajoute, c'est clair et net, hein. Donc ce n'était pas du tout ma position au début. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on revoit ce que disait le PCF sur la question du cannabis, ils ont quand même évolué. Aujourd'hui, donc, et elle en particulier, donc aujourd'hui, maintenir quelque chose qui ne marche absolument pas relève d'une gigantesque hypocrisie, aussi bien en ce qui concerne les consommateurs que de la façon dont se fait la vente. Voilà, cela a pris tant d'ampleur qu'imaginer que l'on pourra aujourd'hui, dans une meilleure justice, par une meilleure police, empêcher la consommation et donc la vente et tout ce qu'elle génère, notamment beaucoup d'argent, c'est un leurre complet.
Et il rajoute, hein, je suis vraiment passé à l'idée qu'il fallait légaliser.
Tout à fait. Ça, elle reprend l'exemple du Colorado en disant que c'est dans cette voie qu'il faut aller. Donc, Regard recommence à poser les questions. Comment ont cheminé les États qui ont abandonné la répression au profit des politiques plus libérales?
Alors, Anne Coppel répond, bah, on connaît la tolérance zéro américaine, hein, qu'on a copié, enfin, que Sarkozy a copié, a importé en France à partir de 2007, à partir de son élection. Et il avait quand même fait beaucoup de bruit là-dessus en disant que vous allez voir, voilà. Alors, par contre, son bilan de ce genre de politique, c'est celui d'un appauvrissement de la communauté noire aux États-Unis, avec parallèlement une exacerbation de la violence. Mais sans aucun effet sur le trafic. Hein. Alors, par contre, aux États-Unis, quand même, à un moment, parce que cette histoire de tolérance zéro aux États-Unis, ça a tenu et ça a marché quand même un paquet d'années. Hein. Il faut le dire, hein, parce que je crois qu'il fait partie du gouvernement de Trump.
Tout à fait.
C'est Rudolph Giuliani à New York qui avait mis en place la tolérance zéro suite à, il me semble bien, c'est la théorie du carreau cassé, en fait, hein, qui a surgi dans les années 70. Et la mise en place de la tolérance zéro à New York dans les années 80 avec un ciblage des populations afro-américaines et notamment des portoricains. Dans les quartiers paupérisés d'Harlem. Donc voilà, ce qui s'est passé aux États-Unis à un moment, c'est qu'il y a un tournant qui a été pris, entre autres, nous dit Anne Coppel, avec ce qu'elle appelle le miracle de Boston. C'est-à-dire que la municipalité de Boston, à un moment, a décidé de lutter contre la criminalité, bien sûr, mais en ciblant uniquement les crimes violents qui ont été sanctionnés par la suite très sévèrement, tout en laissant de côté tout ce qui touchait à la vente du cannabis. Et avec cette politique, de meilleurs résultats ont été obtenus, une baisse de la violence et des crimes de rue également. Sans augmentation, par contre, du nombre de consommateurs. Voilà, ça a suscité un basculement dans une grande partie de la classe politique et chez la totalité des experts. Et au sein de l'opinion, à force de demander tout le temps de renforcer la répression, on a fini par comprendre qu'elle ne servait à rien.
Ouais. Voilà. Donc, Regard pose la question, évidemment, cela revient-il à accepter l'économie occulte issue du cannabis, qui dans ce cas reste criminelle? Donc, Anne Coppel répond, la décriminalisation ne peut se faire que par étapes. Et elle dit, bon, on a commencé par le cannabis thérapeutique, ce qui a allégé le marché illégal, puis on a légalisé l'autoproduction, puis voilà. La dépénalisation de l'usage, alors elle dit, peut être une première étape en France, ce ne serait pas satisfaisant en soi. Voilà, bon, est-ce que ça peut être une étape ou pas? C'est difficile, on va revenir là-dessus, parce que justement, Auriol, un peu plus loin, est vraiment totalement contre la dépénalisation. On verra son argument tout à l'heure.
Je ne pense pas qu'Anne Coppel soit pour. Par contre, comme elle dit, il faut que ça se passe par étapes.
Voilà, tout à fait.
Elle pense qu'il faut
la légalisation, et elle pense que la dépénalisation peut être une étape.
Oui,
mais Auriol dit que la dépénalisation ne peut même pas être une étape, c'est contre-productif.
Oui, je suis d'accord aussi.
Voilà. Donc, c'est un débat. Mais bon, sinon, je suis toujours très... souvent totalement d'accord avec Anne Coppel.
Enfin, elle, ce qu'elle dit, Anne Coppel, c'est l'urgence pour les usagers, qu'on arrête de les réprimer, et que c'est pour ça qu'il faut dépénaliser d'abord tout de suite.
Voilà. Et elle rajoute, soyons clairs, le rôle de la police est de maintenir la paix sociale, pas de lutter contre les addictions. Donc voilà, il ne faut pas mélanger les rôles. Les flics sont là pour réprimer, si on leur dit de réprimer, ils répriment. On leur donne des lois à la con, ils suivent des lois à la con. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est des bonnes lois, et à partir de là, ils peuvent faire du travail logiquement. Voilà. Bon, concrètement, quelles conséquences positives auriez-vous attendues d'un processus de dépénalisation, voire de légalisation sur le terrain ? Donc, Jacqueline Rouillon dit, c'est pas comme ça que je poserai les choses, mais elle veut, c'est quoi, c'est pas une réponse au problème. Mais le souci, c'est que actuellement, les jeunes n'ont plus que ce moyen-là de gagner de l'argent. Et ben, il va bien falloir qu'ils trouveront autre chose. Hein, il y a pas de souci. Pour elle, le problème est social parce que là, la vente se fait dans les espaces de vie des habitants et ça, c'est insupportable. Vous rentrez chez vous entre 7 et 8 endroits de la ville, vous n'êtes plus chez vous, vous avez peur. Voilà, c'est le souci de. Bah justement, les gens ne vont pas loin de tout pour vendre parce qu'il faut être camouflé. Et quel est le mieux camouflage que dans le
lieu de vie, en fait.
Dans les lieux de vie.
Dans les apparts et tout. Ouais.
Alors après la question, c'est le paradoxe, c'est effectivement que comme vous le signez, le cannabis joue un rôle d'amortisseur économique et social pour beaucoup de familles. Donc bah, ça c'est vrai, a priori ça permet, le trafic permet de faire vivre pas mal de familles, voire même des quartiers entiers, mais c'est insupportable. Penser que l'on gagne la paix sociale en laissant faire, c'est insupportable. Mais c'est en partie vrai, relance regard. Oui, c'est la réalité, le trafic apporte donc des ressources. Donc Anne Coppel propose même, dans la légalisation, d'avoir la possibilité de réembaucher une partie des petits dealers pour la légalisation, d'autant plus qu'ils ont une expérience du produit. Ensuite... Jacqueline Rouillon remarque que quand même c'est ce système de trafic qui reste quand même très épisodique parce que on ne peut pas vraiment avoir de vie, on peut pas avoir de compte quand on peut avoir des comptes, mais pour les banques on est considéré comme sans argent même
quand
si
on est plein, quand on est dealer, un vendeur.
Voilà. Et donc souvent c'est quelque chose qui dure 2-3 ans s'il y a des alternatives, vous sortez. Vous sortez de du fait d'être dealer. Hein. Voilà. Après, il faut peut-être se poser d'autres questions et s'interroger sur la source du problème. Pourquoi il y a tant de gars sans autres ressources qui vont trafiquer pour gagner de l'argent ? Ça, c'est totalement une autre question.
Bah, c'est une question légitime quand même. Hein.
Oui, tout à fait. Pourquoi dans les quartiers, etc. Bon, après, on a des réponses, mais bon, on va déborder, on va changer totalement de sujet.
Oui, mais du coup, c'est intéressant aussi ce que dit Anne Coppel, si on légalise et qu'on fait travailler tout le monde dans une économie légitime.
Tout à fait.
D'ailleurs, elle dit que c'est ce qu'on a fait en Hollande. Mm-hmm. On a clarifié un peu tout ça, même si c'est pas très clair, là-bas.
Voilà, après, regarde, dit, mais la source du problème, c'est aussi les consommateurs, la consommation et les consommateurs. Ah oui, forcément, dit Jacqueline Rouillon. La France, mais il faut quand même, sans parler de la question de l'alcool, juste la question des psychotropes, on est aussi le pays qui consomme le plus de psychotropes dans le monde. Voilà, beaucoup de consommateurs intensifs s'isolent du monde et auront de grandes difficultés à sortir de ces isolements, d'où la problématique de la après-dépénalisation. Anne Coppel continue en parlant de la consommation qui augmente beaucoup en France. De nombreux facteurs jouent, mais ce n'est pas une question de loi. Pour traiter la consommation, il faut se situer sur le terrain de la santé publique et mener des actions de prévention. Voilà, sur le cannabis, comme ça on le fait sur l'alcool. Cette démarche de prévention relève de la santé publique et un gendarme ne peut pas la mener correctement. C'est un petit peu ce qu'elle disait tout à l'heure. Les missions d'ordre public et les missions de santé publique sont des choses différentes. Donc voilà, lutter, parce que le problème du cannabis, et on le met, et d'ailleurs dans la loi, c'est dans la santé publique, mais dans la réalité, ce n'est traité que par le côté répressif, donc elle met le point sur ce problème et cette absurdité législative. Regard relance encore en attendant de pouvoir résoudre les problèmes de fond. Quelle réponse politique locale peut-on apporter aujourd'hui ? Donc Jacqueline Rouillon, il dit il faut sortir les gens, les familles concernées de leur isolement. Donc pour ça, il faut sortir de la prohibition. Hein, c'est ça qui isole quand même. Parce que les gens bloqués dans le secret, notamment parce qu'il y a la pénalisation, donc restent cachés. Et les gens qui ont des soucis n'en parlent pas. Que ça soit un garçon qui soit dans le réseau, que ça soit des enfants qui consomment, c'est les familles essayent de résoudre le chose en interne et de cacher, de ne pas faire sortir ça au grand jour. Donc voilà, elle rappelle un petit peu les actions qu'ils ont faites sur Saint-Ouen, c'est de récupérer des halls d'immeubles en allant faire des petits déjeuners dans certains halls d'immeubles le vendredi après-midi. Voilà,
oui, créer du lien social avec les habitants, faire participer un peu tout le monde,
et
décloisonner.
Et reprendre
les lieux, les lieux. Espaces. Ouais.
Voilà, donc... après, Anne Coppel là-dessus, sur l'importance des actions de cohésion sociale. Elle rajoute que 2 millions de jeunes, 1 sur 2, ont expérimenté le cannabis. Donc, elle rappelle, l'interdit ne fonctionne plus. À quoi sert la sanction ? La légalisation est, j'espère, inéluctable, car elle constitue la réponse rationnelle. Voilà, et donc, laisser les autoproducteurs, dit-elle, arrêter d'interdire l'usage. Enfin, Regard pose une dernière question. Le problème majeur est-il...
N'est-il pas l'acceptabilité sociale de politiques plus tolérantes et tout simplement plus rationnelles et le manque de courage politique pour surmonter ce blocage ?
C'est certainement un problème, mais d'abord, l'opinion est beaucoup plus ambivalente qu'on ne le croit sur ces sujets. On l'a vu à plusieurs reprises aller spontanément vers le tout répressif. Mais elle s'aperçoit quand même que ça ne résout pas le problème. Donc, et pour finir, les choses où les gens bougent, hein, elles disent « Les maires de Saint-Ouen n'ont pas manifesté pour dire stop au cannabis, elles ont manifesté pour dire stop à la violence. Les gens cheminent petit à petit. Quant aux élus, qu'est-ce qu'on a hein ? Sur beaucoup de sujets, si on a du courage politique, on fait avancer les choses. Et je pense qu'elles avanceront en France le jour où des élus auront un peu de courage.
Voilà, alors juste dans cet article, quand on parle des mères de Saint-Ouen, c'est les mamans, hein, c'est pas les mères M-A-I-R-E. Hein,
M-A-I-R-E, oui, c'est vrai. Tu fais bien de voilà, préciser. Non, juste parce que... À l'antenne, il peut y avoir...
Comme nous, on n'est peut-être pas forcément super clair et on s'en excuse auprès de nos auditeurs et auditrices, on préfère parfois préciser certaines choses.
Voilà. J'ai essayé de vous résumer donc ce texte de 3 pages hein, qui est assez intéressant.
Qui est très intéressant. Qu'il y a Anne Coppel aussi en plus, c'est quand même pas mal. Quoi.
Voilà, j'espère que j'ai pas trop déformé leur propos. Donc sinon, vous regardez, vous allez trouver ça donc dans www.regard.fr /article/ cannabis les impôts. Passe de la répression. Donc le titre c'est ça, hein. Je pense que vous tapez Regard, les impasses de la répression et Anne Coppel et vous tomberez sur cet article.
Allez, on se repasse un peu de musique.
On se fait un petit
ce que tu veux, mais un peu de musique.
Ouais, mais là tu me prends au dépourvu. Hein.
Donc après la petite coupure musicale, on s'intéressera sans doute d'ailleurs à cet article qui est paru dans Paris Match, si ça te va.
Oui, tout
après
à fait.
La coupure
Emmanuel,
musicale.
Avec deux L.
Emmanuel Auriol, elle s'appelle, professeur à Toulouse. Fait. Voilà, à tout de suite.
Très intéressant.
C'est une mission.
C'était Billy the Kick, ma plante.
Ma plante.
Notre morceau un peu emblématique.
Et donc, on attaque donc avec Interdire le cannabis, ça freine-t-il son usage ?
Un article de Paris Match du 27 janvier dernier. Paris Match qui, ces derniers temps, à deux, trois reprises, nous a sorti quelques articles sur le sujet en question. Ce qui est quand même pas souvent. Et là, donc, pour cet article-là, ils interviewent Emmanuel Auriol, qui est prof à la Toulouse School of Economics et qui a écrit un bouquin paru en mai de l'année dernière pour en finir avec les mafias, sexe, drogue et cannabis, et clandestin, pardon, et si on légalisait. Et elle prônerait, selon Paris Match, la légalisation du cannabis au nom de la préservation de l'ordre public. Et donc, Paris Match commence avec cette question. La situation actuelle en France est-elle satisfaisante ? Point d'interrogation.
Pour Emmanuel Auriol, l'interdiction telle qu'elle est pratiquée dans notre pays est inefficace. Non, là, on ne peut être que d'accord avec lui, puisqu'on le dit à longueur d'année.
Bon, ce qu'elle dit, d'ailleurs, vrai. Hein, pourquoi c'est inefficace ? Elle dit, voilà, n'importe qui peut se procurer du cannabis à peu près partout et très bon marché. Très bon marché, je suis moins d'accord. Mais bon. Alors, les dealers, dit-elle, toujours installés au même endroit, sont tolérés, puisqu'ils ne peuvent être tous envoyés en prison. Et la prohibition conduit à ne pas appliquer les règles. Or, avoir des règles qui ne fonctionnent pas nuit énormément à la démocratie. Alors ça, on peut être d'accord avec ça. Elle ajoute, je n'encourage pas la consommation de cannabis, mais nous sommes obligés de constater que la police devrait se concentrer sur le terrorisme, sur les gros trafiquants, plutôt que sur les interpellations des usagers de cannabis qui sont de plus en plus nombreuses ces 15 dernières années. C'est moi qui rajoute.
Du coup, la police fait du chiffre.
Voilà, elle dit, voilà, la focalisation sur les usagers est un fait récent. Voilà, ça fait du chiffre, comme tu dis. Voilà.
Et il conclut par l'échec de l'interdiction du cannabis en France, décrédibilise l'État et alimente le populisme. Ensuite, Paris Match pose la question, certains pays ont choisi la dépénalisation et de la consommation plutôt que la légalisation du cannabis, qu'en pensez-vous ? Et là, il explique qu'il est opposé à la dépénalisation.
Elle
explique qu'elle est opposée à la dépénalisation qui cumule les inconvénients de la prohibition et de la légalisation. Donc la consommation de cannabis explosera puisque les usagers ne risqueront plus rien et du coup les trafics de la délinquance associée augmenteront également. Elle explique que notre pays est champion d'Europe de la consommation parce que les dealers se livrent à une compétition
féroce même.
Féroce, tout
ouais,
à fait.
Et que les prix sont
et
très bas.
Les prix,
ouais.
C'est très bas. Une politique de dépénalisation a été tentée en Espagne et s'est soldée par un fiasco. La consommation a explosé et la criminalité aussi, sans que rien ne puisse être contrôlé. Donc voilà, ça c'est ces arguments pour dire que la dépénalisation est une absurdité totale. Donc il faut la légalisation. D'où la question de Paris Match, quels sont les avantages de la légalisation? À partir du moment où il faut faire un petit peu comme on fait pour l'alcool ou le tabac, à partir du moment où le prix du cannabis sera cher, celui d'un paquet de cigarettes est composé à 80% de taxes, la consommation sera limitée. Légaliser fera aussi diminuer l'attrait d'emprunt en interdit auprès des jeunes, contrôlé et le seul moyen de remettre de l'ordre. Paris Match demande s'il applique le même raisonnement aux autres drogues. Oui, tout à fait. Alors après, c'est une question de volume. Hein. Il y a 11 millions de consommations de cannabis, de fumeurs, ouais, de cannabis.
11 millions de consommateurs.
Qui ont expérimenté. Et 400 000 seulement pour la cocaïne. Donc voilà, il est pour, en tout cas, l'État doit prendre
sa place. Elle est pour.
Elle est pour, l'État doit prendre sa place et rasseoir son autorité.
Alors juste petite parenthèse. Selon elle, donc la dépénalisation, faut pas, ça marche pas, c'est une catastrophe. Mais elle cite comme exemple l'Espagne, mais ça a très bien marché au Portugal, par exemple.
Tout à fait.
Donc finalement, moi je suis pas sûr que la dépénalisation espagnole ait été pareille qu'au Portugal.
L'exemple portugais est encore totalement différent. C'est vraiment un travail sur la prévention
et sur la santé.
La santé, ils ont vraiment arrêté tout le problème répressif. Ils ont mis l'action sur toutes les drogues dures en laissant le cannabis de façon vraiment, bon, en faisant de la prévention, mais en emmerdant personne là-dessus aussi. Hein. Bon, c'est très particulier. Le Portugal est vraiment une expérience intéressante et assez...
Merci de le rappeler, parce qu'effectivement, en Espagne, on n'a pas fait comme ça. En Espagne, on a tout dépénalisé en 1976, me semble-t-il. Non, ça c'est en Hollande, excusez-moi. Non, en Espagne, c'est au début des années 80. Au début des années 80. Et je suis pas sûr qu'effectivement ils aient mis le paquet au niveau de santé et prévention. En tout cas pour les drogues dites dures ou injectables. Enfin, ils ont pas fait comme au Portugal, effectivement, c'est pas pareil. Puis il y a aussi un élément démographique, c'est que le Portugal c'est pas pareil que l'Espagne. Voilà. Donc bon, bref, voilà. En tout cas, l'exemple portugais est un bon contre-exemple par rapport à ce qu'elle déclare.
Ouais, donc, la question de Paris Match, c'est qu'elle rappelle Manuel Valls qui défend la prohibition au motif qu'il faut des interdits dans une société. Alors bon, personne ne va dire qu'il ne faut pas d'ordre dans un pays, mais ça n'empêche pas que la France est le plus gros consommateur de cannabis, juste derrière la Tchéquie et la République tchèque. Voilà, cet échec décrédibilise l'État et alimente le populisme, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, très peu de gens se sont vraiment penchés sur le coût induit par la prohibition. Voilà, alors c'est vrai que si on fait une prohibition, ben, a priori, ça peut faire peut-être baisser la consommation de 30 à 40%. C'est ce qu'on a vu avec la prohibition de l'alcool hein, aux États-Unis. Mais quand la demande est devenue trop importante, le crime organisé il s'est répandu. Et donc, voilà, la prohibition de l'alcool a créé des mafias et...
Et des gros problèmes de santé publique.
Et des gros problèmes de
santé
publique.
Parce que l'alcool qui était produit à cette époque était quand même d'une qualité vraiment pas terrible. Enfin, il y avait tout, mais aussi de l'alcool de mauvaise qualité. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que ce sont les ligues de tempérance qui ont milité pour la prohibition, qui par la suite ont milité à nouveau pour sa relégalisation, notamment parce que certaines mères de famille disaient que maintenant leurs enfants étaient enrôlés dans les trafics et la mafia et servaient de guetteurs aux organisations. C'est marrant, ça nous rappelle un truc, ça.
Ouais, je sais pas.
Hein. Ouais, je sais pas où, mais j'ai déjà entendu parler de ça dans des villes.
Bon. Voilà, en tout cas, si l'État fait pas son travail, eh ben, y en a d'autres qui prennent sa place. Et donc, dans le cas du cannabis ou des autres produits actuellement prohibés, eh ben, c'est justement le crime organisé qui prend la relève. Donc, la légalisation entraînera-t-elle une hausse de la consommation ? Donc, a priori, c'est difficile de savoir comment ça va se passer exactement chez nous, mais a priori, ce qu'on voit, ce qui se passe aux États-Unis, on n'a pas observé d'explosion de la consommation, à part un tourisme cannabique, comme un peu aux Pays-Bas. Ou en revanche, là-bas, quand on regarde les chiffres chez les jeunes ou dans la population en général, la prévalence, donc le nombre d'utilisateurs, est bien plus faible qu'en France. Voilà, alors après, c'est toute la question, c'est qu'il faudra faire donner un bon prix, et du coup, si on légalise, il faudra vraiment une forte répression sur les trafiquants, et il ne faudra faire preuve d'aucune clémence envers les dealers comme envers les clients, puisque ces derniers auront la possibilité d'en acheter légalement. Voilà, c'est le même cas maintenant que quand vous achetez des cigarettes de contrebande. Le vendeur est coupable, et vous aussi. Vous insistez sur le prix d'éviction, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est la grande question du prix du marché, si on légalise, à quel prix ? Parce qu'il faudrait que le prix soit assez bas pour pouvoir être attractif, et donc que les gens n'aillent plus voir le trafic.
Le petit dealer du bah,
le petit dealer
la rue.
Du coin. Mais voilà, donc c'est le prix d'éviction et celui qui permet d'assécher le prix des dealers. Le marché des dealers.
Oui.
D'assécher le marché des dealers, ouais. Sur la production, donc elle dit que si elle était fumeuse, elle dit qu'elle préférait aller acheter que d'en cultiver.
Ouais. Bon,
c'est vrai que
pas tous cet avis. Hein.
Tout le monde n'a pas la main verte.
Et puis tout le monde n'a pas cet avis non plus.
Voilà. Et voilà.
Aussi.
Pourquoi rien ne se passe en France ? Bon, elle dit qu'il y a quand même une évolution, notamment dans l'opinion publique. Ce qui est plus ou moins vrai, ça dépend aussi comment on pose la question. Voilà.
Bah, j'aime bien quand même. Elle dit qu'il y en a qui restent favorables à la prohibition. Alors, en général, pour des raisons morales, mais j'aime bien, elle rajoute, sans visiblement songer à l'efficacité.
Voilà. Et bon, elle rappelle que pour elle, la solution, hein, c'est pas la dépénalisation qui est la pire des solutions possibles, mais c'est la légalisation qu'il faut. Que vont faire les mafias, alors dit-elle ? Sinon pas de business, les dealers feront autre chose, ils travailleront comme tout le monde. Entre l'herbe et la résine de cannabis, l'herbe se développerait, quand vous en pensez ? Alors le problème de la prohibition, c'est la qualité des produits. Donc l'autre avantage, actuellement, herbe ou hashish, on ne sait pas, vu que c'est des dealers qui le font et qu'ils n'ont aucun scrupule.
Oui, la santé publique n'est pas leur problème.
Voilà, la santé publique n'est pas leur problème, donc elle rappelle que la légalisation, grâce à la légalisation, la qualité sera contrôlée. Et enfin, comment fonctionnerait un monopole d'État ? Ça serait des agriculteurs sous contrat qui produiraient en lieu fermé, des producteurs agréés, etc., avec des officines tout aussi agréées, loin des écoles, avec des heures d'ouverture réglementées, des prix différenciés selon la teneur au THC, etc., etc. Bien sûr, la vente aux mineurs serait strictement interdite, ainsi que la publicité, et il y aurait une fiscalité spécifique qui serait appliquée. Voilà, alors, si on écoute bien le discours, si on se réfère au tabac, on peut se dire qu'il faut arriver à 80% de taxes, sauf que si, pour reprendre son expression, on veut utiliser le prix d'éviction, il faudra qu'au début les taxes soient assez basses pour pouvoir assécher le marché, et je pense que progressivement, le prix augmentera avec le temps.
Oui, après, il y a quand même différentes choses dans cet article et dans ce qu'elle explique qui, je trouve, qui prêtent quand même vraiment à la critique. Elle parle d'agriculteurs sous contrat qui produiraient dans des lieux fermés. Moi, quand j'entends ça, je me dis qu'on favorise la culture sous lampe, en fait. Donc, des consommations d'électricité, alors que c'est une plante qui s'épanouit quand même très bien au soleil, en pleine nature. Donc, Voilà, après,
oui, alors, moi j'avais compris des terrains clôturés, mais alors, c'est peut-être toi qui as raison.
J'en sais rien, oui, c'est peut-être nous deux, on a peut-être, c'est peut-être possible pour les deux, mais bon, je pense qu'il y a quand même un moyen de faire plus simple, notamment en tolérant l'autoproduction. Voilà, après, bon, c'est une économiste, son projet, son idée globalement est intéressante, quoi. Là, voilà. Après, bon, je pense que dans les détails, il y a moyen quand même de changer et d'améliorer certaines choses. Voilà. Il est bientôt 22h, mais on a encore quelques minutes, à mon avis. On peut encore continuer, nous dit-on. Voilà. Donc, je vais vous parler de quoi maintenant. Il nous reste deux articles, un très gros, qui est hyper intéressant. Je crois même vous l'annoncer, c'est sur sensiseeds.com, qui est un généticien aussi, un peu comme DynaFem. Hein. Donc il y a un article intéressant là, qui s'intitule donc, quel produit pharmaceutique le cannabis pourrait-il supprimer, remplacer, pour une interrogation. Voilà, c'est intéressant, puisque effectivement, ça part d'abord quand même d'observations qui ont été faites aux États-Unis.
Oui, parce que l'observation, c'est important.
La reine d'Angleterre, Victoria, était également une adepte de la confiture de haschich. Comme de nombreuses femmes de sa génération, elle en consommait pour calmer ses règles douloureuses. Elle prenait également de grandes quantités de morphine.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Donc voilà, en tout cas, la reine Victoria, elle n'allait pas à la pharmacie pour trouver un médicament qui pouvait la soulager. Elle avait trouvé une autre solution. Et en tout cas, voilà, ça peut soulager un certain nombre de personnes qui utilisent des opioïdes, par exemple. Voilà. Alors, par exemple, dans un document de travail en 2015, les chercheurs du RAND Corporation ont découvert que dans 17 États, les taux de mortalité associés aux surdoses d'opioïdes d'ordonnance avait chuté de 16 à 31% après l'adoption des lois en matière de cannabis médical. Donc forcément, ils se sont posés des questions, il doit y avoir un rapport. Hein. Et ces données corroborent celles d'une étude qui date de 2014 et qui avait conclu que la mortalité liée aux opioïdes était 25% plus basse dans les États où le cannabis médicinal était légal. Voilà, c'est pas rien. Hein. Alors, concrètement, de quoi qu'on parle, hein. Alors, par exemple, en 2012, une revue des études sur l'utilisation du cannabis pour substituer les opioïdes ou constituer un traitement d'appoint a compilé des résultats encourageants. En l'occurrence, par exemple, une étude effectuée en 1975, il y a plus de 40 ans, comparant le THC à la codéine, a trouvé, écoutez bien, que 10 mg de THC n'était que légèrement moins efficace que 60 mg de codéine, mais que l'efficacité de 20 mg de cannabinoïdes surpassait celle de 120 mg de codéine. Et une étude en double aveugle, effectuée en 1990 sur un seul sujet, par contre, a montré qu'une dose de 5 mg de THC était aussi puissante que 50 mg de codéine dans le soulagement de la douleur chronique, en plus de réduire la spasticité musculaire. Bon, c'est à prendre avec un certain intérêt, mais c'est quand même sur un seul sujet. Donc, bon, on ne peut pas en tirer une généralité non plus. Ensuite, un sondage transversal rétrospectif a été effectué en 2016 auprès de 244 patients souffrant de douleurs chroniques et se traitant au cannabis médicinal pour découvrir s'il y avait des changements de consommation d'opioïdes et de qualité de vie. Et à la lueur des résultats, on a découvert une réduction moyenne de 64% pour la consommation d'opioïdes et une augmentation de moyenne de 45% en matière de qualité de vie. On a aussi noté une diminution dans le nombre de médicaments pris par les patients ainsi qu'une réduction du nombre de la sévérité des effets secondaires. Voilà. Donc le bien fondé de remplacer des opioïdes par le cannabis ou de combiner les deux drogues semble apparent dans le traitement de la douleur chronique. Je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que c'est quand même assez long. Là, je voulais vous lire ça.
Toujours par rapport aux opioïdes, le cannabis peut aussi traiter la dépendance.
Aux opioïdes, en effet. Il y a diverses études qui ont été faites et que le système endocannabinoïde peut avoir un effet médiateur sur l'activité d'un neurotransmetteur trouvé dans le cerveau, la noradrénaline, affectant la réponse du récepteur Je sais pas lire les lettres en latin. Micro-opioïdes, c'est ça?
Oui, je pense.
Ok. Donc le lien n'est pas encore reconnu, mais le potentiel de recherche est intéressant. Voilà, bon. Alors, on va aller vite, hein, parce que ça se termine. Le cannabis peut aussi être utilisé pour substituer des antiépileptiques, notamment le CBD, hein. On en a un peu parlé la semaine dernière. Certains patients adultes estiment que les traitements à base de CBD sont aussi ou plus efficaces que les anticonvulsivants conventionnels pour contrôler les convulsions, sans toutefois comporter de graves effets secondaires. Voilà. Lors d'un essai clinique ouvert effectué en 2015, des chercheurs ont tenté de déterminer les effets anticonvulsifs du cannabidiol sur 162 enfants et de jeunes adultes âgés de 1 à 30 ans, et ils ont découvert que le cannabidiol pouvait réduire la fréquence des convulsions et présenter un profil sécuritaire chez les enfants et les jeunes adultes atteints d'épilepsie réfractaire. Voilà, il y a eu d'autres rapports également qu'on tirait des conclusions, alors plus prudentes également, mais voilà, on arrive plus ou moins aux mêmes conclusions. Donc voilà, je vous lis cette phrase. En conclusion, remplacer les anticonvulsivants par le cannabis dans le traitement des formes les plus répandues d'épilepsie n'est pas aussi avéré que dans le cas des opioïdes, hein, n'est pas aussi avéré. Hein. Mais le poids des rapports positifs de patients justifie que se poursuive la recherche en ce domaine. Voilà.
Voilà, donc est-ce qu'on peut aussi substituer d'autres médicaments? Donc sans doute, hein, il y a des antipsychotiques sans doute qui peuvent être remplacés par du cannabis, surtout si ce cannabis est chargé en CBD.
Voilà, toujours le CBD, hein, toujours.
C'est l'exemple qu'on a utilisé plusieurs fois avec les chocs traumatiques des jeunes Israéliens, les pauvres qui font 36...
Qui obéissent à des ordres iniques, leur demandant d'aller commettre des actes
barbares,
inhumains, et ça pèse sur leur conscience, visiblement.
En tout cas, sur certains, pas sur,
voilà,
tous,
pas sur certains, oui. Alors, et enfin, dernière question dans cet article, hein, qu'en est-il du cannabis pour remplacer la chimiothérapie? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus?
Alors, ça m'a un peu semblé bizarre. Moi, je lirais juste la conclusion, le résumé. Les cannabinoïdes donc induiraient la mort des cellules cancéreuses et inhibent l'angiogenèse tumorale et l'invasion dans des modèles animaux atteints de cancer. Il y a des preuves qui montrent qu'il s'agit d'une manière similaire sur les patients atteints de glioblastome. Comme les cannabinoïdes affichent un profil de tolérance convenable, il est justifié et même urgent d'entreprendre des essais cliniques pour tester leur potentiel en monothérapie ou idéalement en traitement combiné auprès de patients atteints de glioblastome ou d'autres types de cancers. Donc, a priori, ça ne marcherait pas pour tous les cancers. Mais là, ils disent la tuerait. Nous, on avait lu, moi, dans les études que j'ai lues jusqu'à maintenant, ça empêcherait que le cancer se propage. Ce qui est déjà très positif.
Il y a des articles, des données, hein, qui montrent quand même que le THC détruit les cellules cancéreuses.
Oui, tout à fait.
Comme tu dis, c'est pas, peut-être pas tous les cancers, puis il y a cette histoire de glioblastome là. Oui. Qu'il faut,
On va laisser les chercheurs, hein, ce n'est pas notre domaine.
Voilà, donc bon.
Mais en tout cas, voilà, moi j'avais été surpris parce que j'avais jamais lu jusqu'à maintenant que ça détruisait les
cellules cancéreuses.
Les cellules cancéreuses. J'avais vu que ça empêchait leur développement, que ça le bloquait le cancer, mais voilà, jusqu'à le. Bon, peut-être, pourquoi pas. Si c'est vrai, tant mieux.
Voilà. Eh bien, on va arrêter Cannabis Circus maintenant. On vous reparlera de cet article de Libération sur les étranges bagages du commissaire François Thierry, en l'occurrence le patron de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants. Voilà, un article pas inintéressant. Apparemment, c'est pas fini les enquêtes et il trouve beaucoup de choses encore. C'est assez dingue.
Voilà, c'est assez bizarre comment il va chercher des valises de
cam à l'aéroport. Ouais.
Voilà, juste pour des indices, pour mieux infiltrer quelqu'un. Bon.
Voilà, si on vous en parle pas, que vous voulez le lire, donc c'est dans Libération. Stup, les étranges bagages du commissaire du 25 janvier dernier. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus en ce lundi 30 janvier 2017. On vous remercie d'avoir été encore une fois fidèles à l'émission. Et ce soir, j'en profite pour saluer Franck et Céline qui sont venus à la réunion du cirque samedi après-midi. On les remercie d'être venus et apparemment ils semblent motivés pour s'engager avec nous et faire plein de choses. Voilà, donc on les remercie d'être venus, de s'intéresser au cirque et de vouloir militer avec nous. Voilà, c'est donc la fin de Cannabis Circus ce soir sur Radio Canu. Quand même, le numéro de téléphone du cirque au cas où, hein, 06 11 53 10 07, si jamais vous voulez nous appeler. Vous pouvez nous laisser un mail cirque-lyon@no-log.org, faire un petit tour sur notre site internet www.cirque-lyon.fr et ou aussi nous écrire par voie postale, ça marche toujours. Bon, les pigeons voyageurs, non, on a abandonné, mais la boîte postale, oui. Donc, Cirque Lyon, BP 93 043 69 605, Villeurbanne, CEDEX.
Voilà, mais voilà. N'attendez pas une réponse par retour de courrier, la boîte aux lettres est relevée de façon épisodique.
Oh si, quand même, on y va assez rarement, assez régulièrement. Si. Voilà. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous maintenant, c'est Chasseurs de Son. Et on vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus. Au revoir et merci.
Ciao à toutes, ciao à tous.